bonsoir à toutes et à tous. Et merci de nous recevoir chez vous pour ce nouvel épisode de Ni chaud ni froid en direct. On a le plaisir de recevoir Carole Wilmet, dessinatrice et graphiste.
Bonsoir.
Valentine Mahin.
Bonsoir.
Coach en nutrition et hypnologue, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Et pour terminer, Bérangère Eune.
Bonsoir.
Chanteuse du groupe Bodyguard.
Oui, c'est ça.
Et pour m'accompagner dans l'émission, Christelle Dama, bonjour.
Bonsoir. Bonsoir à nos auditeurs. Bonsoir Angelo. Bonsoir Nathan. Bonsoir à nos trois invités.
Et Nathan Buck à la technique. Bonsoir Nathan. Nous allons commencer par Carole Wilmet. Carole, vous avez débuté en tant que dessinatrice en 2011. Mm-hmm. Vous avez commencé dans l'illustration de mode. Dites-nous un peu votre style.
Alors, je dessine principalement au crayon sur papier. Donc, c'est vraiment une technique traditionnelle. C'est comme ça que tous les enfants commencent. Donc, c'est vraiment la base, le crayon sur le papier. J'ai un style assez maîtrisé, on va dire. Je travaille très fort le trait et de façon assez incisive. J'utilise beaucoup d'outils comme des porte-mines ou ce genre de choses qui permettent vraiment d'avoir un trait très précis. Je mets un petit peu de couleur, mais en général pas trop. J'aime bien que la couleur ne domine pas. Ça, c'est pour les dessins. Et puis, alors, je fais un peu de peinture aussi, où là, par contre, il y a beaucoup plus de couleurs. Et où le trait est un petit peu moins mis en avant.
Vous commencez par terminer par le côté sombre et le côté lumière, un peu. Vous mélangez un peu les deux.
Côté sombre et lumière. Pour l'illustration, j'ai dessiné au crayon sur du papier blanc, donc c'est vraiment, le gris du graphite qui ressort. Et pour la peinture, j'ai tendance aussi à travailler sur un fond blanc. Et par contre, là, mes peintures sont beaucoup plus foncées, donc c'est un peu l'antithèse de mes dessins. C'est un peu l'inverse. Donc voilà.
Vous faisiez des illustrations dans l'édition dans la presse. Oui. Dans Elle, par exemple, Le Vif Week-end, les éditions Fleurus et Marabout.
Oui.
Ça vous a pris de l'expérience? Expliquez un peu.
Oh oui, c'était vraiment des contrats très intéressants parce que c'est des contrats qui pousse à travailler d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y a des deadlines à respecter, il y a des dates de publication, des dates de parution, donc on est obligé de se plier à ces dates, et c'est peut-être pas les contrats qui permettent de peaufiner au mieux son travail, mais parce qu'il faut travailler dans une certaine urgence, mais par contre, c'est des contrats et c'est des expériences qui m'ont vraiment beaucoup appris, et qui étaient vraiment très intéressantes à faire, ouais.
Et pourquoi avoir choisi l'illustration?
Alors, je ne sais pas si j'ai choisi l'illustration, parce que je n'ai pas fait d'études d'illustration. À la base, je voulais faire ça. Et puis, quand j'ai visité les écoles au moment de faire mes études, les sections illustration étaient vraiment très axées sur l'illustration pour la jeunesse, donc livres d'enfants. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, en fait, je suis partie dans une voie tout à fait différente. J'ai fait le graphisme en me disant que ça m'ouvrirait plus de portes et que ce serait plus large. Et au final, j'ai ouvert un petit blog d'illustration pendant mes études et j'ai été repérée grâce à ce blog par Etam, à l'époque, qui était mon premier client, parce qu'ils avaient besoin d'illustration pour un packaging. Et donc, ils m'ont fait faire des illustrations tests qui n'ont pas abouti finalement, mais par contre, j'avais un pied dans le domaine, quoi.
Et vous avez eu des idées reçues?
Des quoi? Des idées reçues sur l'illustration? J'en avais par rapport aux livres d'enfants, donc c'est vraiment quelque chose, j'étais totalement fermée, et c'est ironique parce que maintenant je viens d'en illustrer deux, donc c'est, voilà, comme quand on change, il y a que les éditeurs qui ne changent pas d'avis.
Christelle?
Moi j'ai plusieurs questions. Alors, si je comprends bien, toi tu utilises à la base ton crayon, mm-hmm. tes crayons, mm-hmm. crayon graphique, tu mm-hmm. as parlé, pour illustrer. Maintenant après, tu as parlé de peinture.
Ouais.
Quel type de peinture tu utilises? L'aquarelle?
Non, pour l'instant j'utilise de l'acrylique, mais j'ai utilisé de l'huile aussi, j'ai un petit peu tout essayé, et pour l'instant je suis à l'acrylique, mais je pense que ça va évoluer parce que j'ai besoin que ma démarche soit assez écologique, et donc je pense que je vais me tourner vers des peintures qui soient un peu plus respectueuses de l'environnement, et je crois que ça sera même carrément de la peinture pour mur, donc de la peinture de bâtiment. Pour avoir un côté écologique, parce qu'ils font beaucoup plus attention dans le bâtiment que dans les beaux-arts, étonnamment. Donc il n'y a pas beaucoup d'alternatives au niveau des beaux-arts dans la peinture. Donc voilà, je pense que je vais me diriger vers un médium qui n'est pas fait pour les beaux-arts à la base.
Mais oui, je trouve que c'est une bonne idée. Maintenant, je te rejoins totalement, parce que moi, quand je suis rentrée dans l'art, avant d'être dans l'art, je suis d'abord éco-responsable.
Ouais, ouais.
Et donc, du coup, je me suis rendu compte que c'était pas très environnemental. Non. Et notamment, que ça soit les produits utilisés en gravure. Maintenant, je sais qu'ils utilisent de plus en plus des choses qui réduisent, mais il y a quand même l'acrylique. Acrylique, c'est plastique.
C'est du plastique,
ouais. Donc, j'avoue que j'en utilise aussi, mais voilà.
Ouais,
l'encre de Chine, ça c'est pérenne et
oui.
c'est obscur. Maintenant, moi, je les pigmente aussi. Hein.
Ah, oui, donc, oui,
j'ai
ouais.
mes couleurs, etc., que je fais ouais. moi-même avec mes... Comment et donc, c'est vrai que c'est le plus responsable. Maintenant, mm-hmm. je comprends tout à fait ta démarche, mais je demandais par rapport... Parce que tu as parlé de l'illustration et que tu étais passé à autre chose
ouais.
que les crayons. Et tu as dit juste peinture, donc je voulais ouais, spécifier ouais. quand même. Et je pensais que tu allais répondre...
Mais non,
parce que c'est souvent en fait de l'aquarelle qui revient.
Oui, oui.
Maintenant, je connais une illustratrice. Elle travaille que l'acrylique. Elle a été d'ailleurs, c'est une ancienne invitée de notre émission, ouais. Laura Paris. Et c'est vrai qu'elle utilise l'acrylique dans l'illustration.
Ouais.
Maintenant, c'est clair, c'est pas en rapport avec tes propres valeurs. Là, ouais, ça ouais. pose un peu problème.
Oui, oui. D'autant plus que mon studio est à la maison, donc je ne peux pas me permettre d'avoir des odeurs ou des choses comme ça. Par exemple, la peinture à l'huile, la térébenthine, ça sent très très fort. Ouais. Je ne peux pas avoir ça dans un studio à la maison qui va répandre l'odeur dans toute la maison. Donc d'office, c'est un questionnement. Pareil, tout ce qu'on, les pinceaux qu'on rince et qu'on verse dans les canalisations, c'est pas super éco-responsable. Donc il faut se poser des questions, je pense, en tant qu'artiste.
Tout à fait.
On s'inscrit quand même dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. On a conscience de ces enjeux-là, donc il faut aussi se les poser pour son art, je pense.
Je pense totalement. Et alors, par contre, j'ai encore une autre question, mm-hmm. parce qu'on a enchaîné différents... Enfin, c'était ton art, mais différentes parties de ton art. Tu as été repérée pour être illustratrice.
Ouais.
Donc, tu as eu des contrats à remplir dans l'urgence. Est-ce que tu pourrais faire de la caricature, par exemple?
Ah non, non, pas du tout. Je fais vraiment des portraits assez réalistes. Donc, j'ai vraiment un style réaliste, figuratif réaliste.
Okay.
Je fais pas du tout de la caricature ou des dessins humoristiques, ça m'est arrivé, mais c'est pas du tout mon fond de commerce. On va dire, je fais beaucoup de portraits pour l'édition, donc des portraits un peu, on va dire, corporate avec des personnes voilà, illustrées pour un magazine, par exemple, illustrer une interview ou quelque chose comme ça, mais pas du tout des caricatures ou des dessins humoristiques.
Mais c'était pour enchaîner, ouais, parce que tu parlais d'urgence, et donc directement, ça m'a fait penser vraiment en caricaturiste qui doit faire directement.
Non.
Mais par contre, tu as parlé d'illustration pour enfants. Alors, on a bien compris dans ton explication qu'au départ, c'était pas ta tasse de thé, si je peux dire comme ça. Mais par contre, c'est quelque chose qui me dit, tiens, illustratrice, bah, c'est vrai que je vais penser directement à des livres pour enfants en premier.
Oui. Oui.
Maintenant, est-ce que tu te sens un peu plus réconciliée? Parce qu'il fallait peut-être faire un cheminement pour y arriver.
Oui, après, ça n'a jamais été mon objectif final et ça ne l'est toujours pas. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait sur le côté parce qu'une amie me l'a proposé. Elle, ça l'intéressait. Elle est autrice et donc on a fait ça ensemble. C'est vrai que je me suis un peu, je suis un peu revenue sur la façon dont je voyais l'illustration pour enfants, aussi parce que j'ai eu un enfant moi-même et que du coup ça m'a ouvert.
C'était pas le bon moment
dans ma vie, exactement. Et par contre, quand j'ai commencé l'illustration, je ne me disais pas du tout que j'allais pouvoir faire exactement ce que je voulais en termes de dessin et que ça allait être rentable et que j'allais pouvoir en vivre. Ça, c'était pas du tout. C'est vrai que quand on commence des études artistiques, on va se diriger vers une voie ou une autre, mais on va jamais se dire je vais créer mon truc et ça va marcher, ça va être mon style et mon univers et c'est ça qui va me faire vivre. Ça, c'est un truc que je me disais pas avant de commencer et que j'ai réussi à accomplir, quoi. Donc ouais.
Très bien.
Valentine Bérangère, un mot sur Carole?
Ah ben je trouve ça très très intéressant. Moi je suis admirative de tout ce qui est dessin, illustration, et c'est vrai que si j'avais ce don-là, ce serait vraiment une corde en plus à mon arc.
C'est hyper intéressant de découvrir d'autres métiers, et l'art vu d'une manière différente.
Merci.
Carole, je vous ai demandé de choisir une chanson qui définit votre art.
Oui, alors j'ai choisi une chanson pas du tout pour le message, parce que c'est pas du tout le message. Par contre, au niveau de la chanson en elle-même, c'est vraiment une chanson qui me ressemble. C'est d'un groupe qui s'appelle Modern Heaven et la chanson s'appelle Midnight Cowboy.
Valentine, tu es coach en nutrition et hypnologue. Pourquoi êtes-vous lancée dans la nutrition ?
Alors, il faut savoir que j'ai toujours eu des problèmes de poids. Et donc, du coup, à un moment donné, à force d'avoir essayé plein de régimes, d'avoir acheté énormément de compléments et d'avoir testé plein de choses, après la naissance de mon fils en 2017, j'ai décidé de réétudier la nutrition moi-même pour essayer d'aller trouver tout ce que je ne comprenais pas ou tout ce qu'on essayait de me donner et que j'arrivais pas à mettre en application, en fait. Donc, je me suis dit, je vais me reformer moi-même et je vais voir moi-même.
Vous avez écrit un livre.
C'est ça.
Et si perdre du poids était la pire décision de ta vie?
Voilà. Est-ce que tu es prêt à en payer le prix? Donc, c'est parce que derrière le poids et la perte de poids, on rend ça tellement beau en se disant que tous nos problèmes et notre vie va être magnifique quand on va perdre du poids. Alors que finalement, derrière, il y a plein de choses qui peuvent en découler et qui sont beaucoup moins sympas que ce qu'on pourrait croire.
Ce livre fait réfléchir, c'est pour les personnes qui veulent perdre du poids, mais s'aimer avant tout.
Alors, ce livre, il est à la base, il vient vraiment de mes consultations en hypnose, de mon passé également, et de cette envie de rassembler un peu toutes ces informations et de pouvoir dire, mais il y a une autre manière d'appréhender le poids et de ne plus être dans cette optique de mange moins, bouge plus et de la volonté. Si ça se limitait à ça, on ferait tous un 34 et on serait tous hyper bien, alors que finalement, il y a plein d'autres enjeux dedans.
On ne fait pas tout en 34 ici autour de la table.
Non, bien évidemment.
Je pensais que tout le monde était comme moi dans le 34. Par rapport à ce que tu viens de dire, oui, c'est clair que la perte de poids ne va pas résoudre des problèmes psychiques, psychologiques. Maintenant, je pense que le fait d'avoir peut-être autour de nous un matraquage aussi visuel.
Bien évidemment.
Personnes qui sont probablement moins que du 34, malheureusement. Mais on est tous confrontés à un moment donné, peut-être avoir une hausse de poids, une perte de poids par rapport à ce qu'on vit dans l'instant. Je trouve que c'est très intéressant et j'ai envie. Ton livre est là sur la table et j'ai envie de l'ouvrir pour aller voir un petit peu. Alors, pas que je veux perdre du poids. Parce que, je dors perte, évidemment, mais vous n'êtes pas en direct et il n'y a pas de vidéo, mais j'ai gentiment Valentine qui vient de me glisser son livre devant moi. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Mais moi-même, j'ai perdu 50 kilos il y a une dizaine d'années. Et non, sans difficulté du tout. C'est retour de vacances, j'ai vu une photo, c'était pas moi. Et du coup, j'ai eu un déclic et du coup, j'ai arrêté de manger ultra transformé. Et le premier mois, j'ai perdu 17 kilos, ce qui est énorme. Mais j'ai juste arrêté l'ultra transformé. Là, maintenant, par contre, j'ai mes faiblesses en étant humaine, donc j'ai un peu repris. Mais du coup, il faudrait peut-être que je lise ton livre. Et voilà.
Il faut mettre de côté le regard des gens, et quitte à perdre des amis, et le rejet familial, vous pouvez expliquer.
Alors en fait, je parle dans mon livre vraiment de tous ces mécanismes qu'on va avoir qui sont tout à fait inconscients, où on va se rendre compte qu'en changeant, et pas que par rapport à son poids, ça peut être de la confiance en soi, ça peut être une décision qu'on va prendre, mais on peut avoir le regard autour de soi qui change. Dans mon livre, je donne des exemples du type, si vous commencez un régime et que votre famille, on a tendance à bien manger et à mettre le repas au centre de table et que c'est quelque chose d'assez important, les gens vont dire, t'es vraiment pas chouette, vas-y, mange avec nous. Et donc, on va avoir un petit peu cette pression ou alors des caricatures du type « Oui, mais t'as vu, elle a perdu du poids et t'as vu comme elle est devenue hautaine. » Et donc, du coup, ça, c'est des choses tout à fait inconscientes qui viennent se mettre et donc, du coup, qui créent des peurs de réussir à perdre du poids parce que si un membre de ma famille pense que si on perd du poids, on peut devenir hautain, clairement, si moi, je perds du poids, est-ce qu'elle va penser aussi que je vais devenir hautaine? Et voilà, il y a plein de choses comme ça tout autour.
C'est une blessure qu'on a dans le passé qui est refoulée.
Alors, pas toujours, mais il y a énormément de blessures. Moi, j'appelle ça toujours le sac à dos qu'on porte, nos petites casseroles qu'on a là derrière nous, qui vont nous conditionner, bien évidemment. Et derrière le poids, il y a tout ce qui est protection. Il y a plein d'éléments, en tout cas, qu'on vient... ce n'est pas juste de l'alimentaire.
Carole Bérangère, vous voulez rajouter quelque chose, comme vous venez de dire Valentine?
Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient d'être dit. C'est très intéressant et je pense que je vais me procurer ton livre.
Avec plaisir.
Moi aussi, je trouve ça très intéressant. Et le lien entre l'hypnose et l'alimentation, je trouve que c'est vraiment aussi un lien important et qui m'éveille ma curiosité. Donc, je vais aussi me procurer le livre.
Combien de temps ça dure à connaître notre corps?
Bon, je pense que c'est toute une vie. C'est un travail de toute une vie. Maintenant, il ne faudra pas toute une vie pour lever des blocages en hypnose, heureusement. Mais voilà, je pense qu'on en apprend tout le temps. Maintenant, pouvoir aller décrypter certaines choses et comprendre certaines choses, ça peut permettre aussi d'avancer sur un chemin qui est propre à soi.
Moi, j'avais... Bon, j'ai du coup ton livre presque en main. je viens de le parcourir. Alors, on vient de faire le lien avec l'hypnose, c'est Carole. Moi, je t'avoue, comme invitée, j'étais présentée comme hypnologue. Mais du coup, je vois qu'on est dans autre chose parce que je viens de parcourir ton livre. C'est intéressant parce que je vois pas des leçons, en fait, dans ton livre, tu vois. Je vois vraiment un accompagnement et que tu... Enfin, tu vas peut-être nous en dire plus là-dessus, mais je vois vraiment que tu proposes des choses... Des interrogations.
C'est ça.
Tu vois, qu'on peut avoir et t'y réponds avec différentes solutions. Si j'ai bien cerné ton livre, alors il y a, je vais vous dire combien de pages, il y a...
139.
Oui, on est à 139 pages. Alors, j'ai pas lu tout, là, en 3 minutes. Je vous avoue que je lis vite, mais pas à ce point-là. Mais en le feuilletant, je sens bien l'âme, et c'est un rare livre que je me dis, tiens, qui est dans ce sujet-là. Je me dis, tiens, c'est intéressant de le parcourir plus en profondeur.
En fait, dans notre société aujourd'hui, il y a énormément de canaux de communication via les réseaux sociaux et autres qui nous poussent à il faut de la volonté, tu dois, tu devrais. Voilà, on est dans quelque chose où, oui, on a ce côté body positive, mais il y a également tous ces dictats. Et ici, le but, c'est pas de donner des leçons, c'est de poser les bonnes questions pour apprendre à se connaître et comprendre pourquoi on a certaines réactions. Pourquoi est-ce que vous mangez quand vous rentrez du travail? C'est pas juste parce que vous avez faim, et si seulement on mangeait que par faim, on ne mangerait pas beaucoup. Mais voilà, donc le but, c'est pouvoir vraiment donner des conseils, et le livre est en forme de tu. Je parle dans le livre tu, parce que pour moi, c'était important, comme quand vous venez en séance, que le dialogue puisse se faire de manière très fluide. Je suis pas là pour dire je sais et je vous dis que, c'est plus... Et voilà, est-ce que tu peux te poser la question et j'entends ce que tu vis et comment on peut faire les choses avec bienveillance et de la douceur, quoi.
Oui, en le parcourant, là, je me suis rendu compte de ça, c'est que tu vas aller... Alors, j'essaye de poser les bons mots, mais je le sens plus qu'un accompagnement psychologique, tu vois, de l'être, dans le sens où, pas que t'es psychologue, je dis pas ça, mais les questions que tu renvoies à l'autre... amène un questionnement.
C'est ça.
Donc, c'est chaque fois des ouvertures de... C'est pas, la méthode pour apprendre à maigrir en 3 jours.
Exactement.
Alors que c'est pas du tout ça, en fait. C'est juste changer des mécanismes internes. Et donc, je pense, d'après ce que j'ai cerné, ce que tu fais, c'est hors hypnose, parce qu'on n'en a pas encore vraiment parlé,
c'est ça.
Hors hypnose, tu ouvres des champs des possibles, en fait, le champ des possibles, de se dire, tiens, peut-être si je m'interroge, peut-être... moi aussi. Tiens, elle parle d'une réaction, moi j'ai pas eu celle-là, mais par contre, t'en mets plusieurs, et tu dis, je correspond bien à une ou l'autre, donc c'est intéressant, et c'est pas dans le sens, comme je disais, un manuel de parce que je pense qu'il y en a pas, et la manière dont on mange, comme tu disais, c'est apprendre à se connaître, il faut probablement, peut-être pas toute une vie pour tout le monde, mais en tout cas, il faut apprendre à se connaître, il faut peut-être un certain âge aussi pour comprendre notre fonctionnement, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de manger autant que ce que les carcans, comme tu disais, on s'installe à table, on sert les repas pour tout le monde, il y en a 5 autour de la table, et t'as 3 organismes, qui vont, en regardant l'eau pétillante, juste les bulles, prendre 1 kilo, et t'as les 2 autres qui vont manger tout le plat, et qu'en fait, ils seront des filiformes, donc il y a ça aussi, savoir ce qui nous fait du bien ou pas, donc c'est vraiment intéressant de creuser un petit peu plus en profondeur. On n'a pas fini d'en parler et de lire surtout et de se laisser porter, oui.
Valentine, nous allons passer à une chanson qui symbolise votre livre.
Oui, donc j'ai choisi Balance de Mentissa parce que je trouve que ça enlève un peu ce dictat justement de ce chiffre sur une balance qui finalement ne représente rien, mais où on veut nous faire croire que c'est ce chiffre qui est hyper important alors qu'au final c'est plus comment on se sent soi avec soi.
Combien cette fois de kilos en trop? Balance-moi ce que je sais déjà au fond de ma peau. Toi qui sais que je m'affame pour un chiffre de l'âme qui n'est jamais comme il faut. D'en bas tu me regardes, tu ris de moi, tu me nargues, c'est pas beau. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui pesait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. J'ai maigri, j'ai dit oui ça va, mais ça allait toujours pas. Drôle de vie, on n'est jamais assez, assez bien avec soi. Toi qui es là, qui me parle, qui me juge coupable, qui m'en met plein le dos. D'en bas tu me dévisages, tu voudrais que je reparte avec la peau sur les os. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui pesait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui m'empêchait d'être belle. Mais plus j'avance dans les heures,
ça fait 10 ans que vous êtes dans la chanson.
Oui, même un petit peu plus que ça, mais en tout cas pour le projet que je suis venue défendre aujourd'hui, oui.
En 2013, le groupe Bodyguard Tribute,
oui,
est né.
Tout à fait.
Quel est l'acheminement du groupe?
Eh bien, au départ, c'est juste une idée commune de plusieurs musiciens suite à un contrat pour lequel j'étais choriste dans un autre groupe et dans un autre projet. Et là, on m'a proposé en fait de défendre le répertoire de Whitney Houston quelques mois après le décès de cette grande artiste.
C'est une grande dame de la musique qui a marqué son temps.
Je pense qu'elle a marqué son temps, elle marquera encore son temps très très longtemps.
Vous êtes le premier groupe belge à avoir dédié un hommage à cette grande dame qui est Whitney Houston?
Oui, tout à fait, nous sommes le seul et l'unique en tout cas en Belgique.
Alors, Angelo me passe la parole. Alors, Bérangère, on a un peu parlé avant l'émission, évidemment. Et voilà, quand Angelo nous dit qu'il a marqué son temps, qu'il a plus que marqué son temps, je pense que dans les artistes, alors c'est pas pour dénigrer d'autres chanteurs ou d'autres artistes, mais je pense qu'on avait des grands, deux grands de la pop qui sont morts très très jeune, et si on aime la culture, la musique américaine, que ça passe de la soul, que ça passe du funk, de la pop, enfin du jazz, voilà, c'est un monument, Whitney Houston, on n'en aura jamais une deuxième, c'est indéniable, simplement parce que, alors oui, comme tu as dit, elle a marqué son temps, mais elle a marqué la musique de manière générale, et la barre est très très haute depuis longtemps. Alors ça ne veut pas dire que d'autres n'ont pas une tessiture qui peuvent monter, mais il y avait un package avec Whitney Houston, en fait, il y avait un tout, que ce soit sa beauté physique, ou par sa vie, par son vécu, là où elle a grandi, elle était dans le Bronx, hein, si je ne me trompe pas.
À New York,
Bronx,
oui.
Hein, mm-hmm. New York, tout à fait. Bronx, mm-hmm. Donc, voilà, elle a grandi dans les années qui étaient dans les banlieues très, très dures, très chaudes, etc. Donc, on a beau avoir un rapport à elle sur sa fin de vie, je crois qu'il faut se rappeler de tout ce qu'elle a fait durant sa courte vie, qui au niveau musical est énorme.
Oui, donc, bah, elle a été précurseur, je pense, et avant-gardiste.
Sortir du gospel, en fait, amener le gospel sur la scène musicale. Oui. Et je pense que c'est en effet, moi je suis la radio, alors on n'est pas filmé, mais même si on était filmé, on ne le verrait pas. Mais j'ai plein de frissons là en parlant réellement, parce que je pense que Bérangère, on est sur la même ligne. Je pense qu'on a grandi avec elle.
Oui,
moi,
oui,
je n'ai pas
on a été biberonné.
Et je n'ai pas de compte à le dire, elle me manque.
Ah, mais je pense qu'elle manque cruellement sur la scène actuelle, même si elle a ouvert voilà les portes à de très très grandes artistes féminines et qui d'ailleurs reconnaissent être des enfants de Houston, hein, musicalement et être dans les traces. Mais je pense, et je ne pense pas me tromper en disant ça, que aucune n'égalera ce talent intemporel.
Non, j'ai écouté quand même deux de tes vidéos. Il y en a plus. Je prendrai le temps. Je voulais d'abord te rencontrer avant d'aller plus loin. C'était simplement parce que ça touchait Whitney Houston. Donc oui. Voilà, on a eu d'autres artistes au niveau musical. Je ne suis pas forcément. J'aime bien découvrir leur univers directement à la radio et puis de m'intéresser après. C'est ma façon de fonctionner. Maintenant, ici, j'étais obligée. Parce que je te l'ai dit tantôt, je voulais quand même écouter au moins un ou deux morceaux pour savoir, parce que c'était Whitney Houston en fait, j'admets, c'est parce qu'il y avait le nom Whitney Houston, donc je me suis dit, il faut, voilà, pour éviter les surprises émotionnelles, etc. Et je trouve justement, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas entendu quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un chanter du Whitney Houston avec sa voix. Voilà, pas une...
Non, je ne veux pas être une copie, voilà, si c'est ça que tu insinues. Et que, oui, effectivement. C'est, moi, je suis une fan hein, des premières heures. Quand j'ai abordé le projet avec mon équipe et mes musiciens, je voulais vraiment que ce soit un projet qui me ressemble avec ma vision des choses en tant que fan, en tant que personne qui apprécie le répertoire, je voulais amener ma sensibilité et mon ressenti au moment de l'interprétation, tout simplement. Voilà, le plus simplement possible.
Moi, j'ai eu plus l'impression que... Ben voilà, j'ai eu l'occasion d'en voir d'autres. J'ai eu l'occasion de voir une chanteuse qui a tip-top sa voix identique. J'ai pas su suivre le concert parce que ça me faisait... mal, parce que c'est pas Whitney Houston que j'avais devant moi, mais par contre j'avais la même voix. Donc du coup, je trouve que la manière dont tu abordes le fait de mettre ton identité, bah, pour moi tu fais vivre la chanson, les chansons de Whitney Houston. Alors j'ai encore des frissons, game parcours,
c'est le gentil. Corps, merci disant,
mais réellement, parce que je trouve là c'est intéressant, parce qu'on n'est pas, alors on n'est pas dans du cover, on n'est pas dans de la copie, t'as ton identité, mais tu fais vivre les chansons de Whitney Houston, mais pas Whitney Houston.
Évidemment. C'est ça.
Que d'autres artistes ailleurs dans le monde, que j'ai déjà eu l'occasion même de rencontrer, bah, ils veulent incarner. Et là, c'est là où moi, ça me dérange, en tant que fan aussi, parce que tu as dit fan, donc moi, j'aime pas tellement le mot fan, mais parce que pour moi, c'est un mentor, c'est pour moi de la musique, voilà, elle a accompagné, comme toi, toute ma jeunesse, et encore maintenant, elle m'accompagne, mais du coup, alors, pour moi, c'est moins dérangeant. C'est même pas dérangeant du tout, parce que c'est un répertoire que je connais, mais avec une autre, enfin, une autre voix, et pas une copie, pas quelqu'un qui est dans l'imitation, bien ou pas bien, hein, peu importe, mais t'es pas Whitney Houston.
Non, bah non, voilà. Ça, je mets un point d'honneur d'ailleurs à ce qu'on le sache, hein, et que personne ne sera jamais Whitney Houston, elle était unique, et je précise que je pense qu'il faut que ça reste d'ailleurs comme ça. Mais effectivement, quand je chante, je laisse transparaître mes émotions, je laisse transparaître ma sensibilité, mon ressenti, et je chante avec tout ce que je peux donner
de
moi. Oui, voilà.
Moi, je l'ai perçu en tout cas comme ça. Maintenant, tu parlais d'un groupe,
Est-ce que, donc tu es dans un groupe maintenant, autour, oui. C'est un groupe hein,
oui, oui.
Que tu représentes, est-ce que tu aurais pu, alors je veux pas te poser la question bateau, faire ton répertoire à toi, etc. On sait comme c'est compliqué d'avoir des auteurs, des paroliers, les compositions d'avoir dans les labels, etc. Et puis c'est une manière aussi, voilà, de prendre plaisir à chanter. Mais est-ce que tu penses à une autre artiste que tu aurais pu incarner?
Oui, oui, bien sûr, il y en a plein d'autres. On a tenté pendant la période Covid, hein, puisque c'était la période où personne ne pouvait se voir et à ce moment-là, l'événementiel était voilà au plus bas et en stand-by. Donc, on a fait quelques petits essais sur une autre artiste que je trouvais très intéressante à défendre. C'était Toni Braxton, mm-hmm. Qui est une artiste aussi à R&B que j'apprécie énormément. Donc, ça, c'est voilà un exemple parmi tant d'autres, mais je pourrais éventuellement partir sur du Beyoncé ou sur du Tina Turner sans problème ou Mariah Carey. Parce que voilà, j'ai une voix qui me permet de toucher et d'aller voilà vers des artistes avec cette tessiture vocale là, oui. Voilà.
Bérangère, pourquoi autant d'admiration pour Whitney Houston?
Ah ben je pense qu'on vient d'en parler assez longuement. Ben voilà, Whitney Houston, elle avait tout. Elle avait tout, elle avait la classe, le charisme, elle avait l'élégance, elle avait la voix, elle avait ce petit supplément d'âme qui faisait d'elle the artiste, quoi. Il y a rien à dire d'autre.
Valentine, Carole, un mot à dire?
Moi, je trouve qu'il faut pas mal de courage, et même beaucoup de courage pour s'attaquer au répertoire de quelqu'un comme Whitney Houston, donc
bravo. La baisse, quoi.
Ça, ouais, je trouve ça super, ouais.
Hyper intéressant. Ouais. En tout cas.
Ouais. Merci.
Bérangère, vous avez demandé de choisir une chanson qui vous rappelle votre passé?
Oui, donc là, j'ai choisi Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough. Parce que, ben voilà, tout simplement, tout est dit dans le titre également, c'est que, voilà, les montagnes ne sont pas assez hautes et il faut croire en ses rêves.
Thank you.
Bérangère, quelle émotion vous ressentez sur scène ?
Alors là, c'est... je me sens libre, je me sens très bien, en fait, sur scène. J'ai l'impression que c'est, voilà, c'est là que ma place doit... que je dois être à cette place-là.
Ben, j'aime bien ce que Bérangère vient de répondre. C'est pour tout le monde, en fait, soyez juste là où vous devez être, être à la bonne place, en fait, quel que soit le métier que vous faites, quel que soit... dans le couple que vous êtes, dans la vie, vos passions, n'importe quoi, juste être là où vous devez être. Être, c'est juste ça. Je crois que c'est une belle phrase, un bon mantra de vie en tout cas.
Dites-nous vos concerts à venir.
Là non, pour le moment, nous sommes en stand-by et on est en train de négocier déjà pour la saison 2026. Mais s'il y a des choses qui se présentent en 2025, ne nous oubliez pas, on sera ravis de venir vous faire une petite démonstration et une petite interprétation du répertoire de Whitney avec un grand, grand plaisir.
Carole, vous avez l'exposition ?
Eh ben non, moi non plus, j'ai rien pour le moment. Non, moi je suis dans une période plus de repli et de création pour l'instant. Comme je disais, je viens de devenir maman, donc je suis plutôt dans une, voilà, une période de calme et de création. Donc j'ai beaucoup d'idées qui me viennent en tête en ce moment. Donc je produis, et puis le jour où je serai prête à remontrer ça au monde, je me relancerai dans des expos.
Valentine, où on peut trouver votre livre ? C'est auto-édition, c'est ça ?
Alors je l'ai fait en auto-édition, effectivement, parce que je voulais garder absolument ma patte. Je voulais
contrôle.
Que ce soit... voilà. Mis chaque mot, chaque virgule puisse m'appartenir. Et on peut le trouver dans les commerces de Virton, parce que j'ai vraiment été faire un peu du porte-à-porte par rapport au commerce qu'on a à Virton, parce que je trouvais que c'était un message qui peut parler à beaucoup. Et puis, en Gaume, on aime bien se soutenir. Et donc, on va pouvoir le trouver dans divers commerces.
En Lorraine aussi. Il n'y a pas qu'en Gaume. Hein. On va mettre ton livre déjà à la librairie de Messancy.
Ouais.
Hein, je vais te donner les contacts pour montrer que la Lorraine aussi, elle encourage les gommets.
Sinon, on peut le trouver sur Amazon. Voilà.
Sur Amazon, mais voilà, sur la plateforme, qui n'est pas très éco-responsable, je rappelle à nos auditeurs. Donc, si vous ne trouvez pas ailleurs que sur des petites boutiques, Amazon, c'est très bien pour faire comme Google Recherche, vous recherchez. Et si vous creusez un peu, vous allez voir des petites boutiques, ou même, par exemple, le mail de Valentine pour pouvoir lui commander en direct. Parce que utilisez Amazon comme ça, n'envoyez pas les colis chez vous.
Après, le 10 août, je fais le Mex Artisan à Mex. Donc, le Mexart, oui.
Tu fais Mexart du 10 au... Non, du 16 au...
Alors, moi, je fais juste le jour, le 10 août, le dimanche, donc où ils reprennent les artistes.
Je
vais venir bonjour, il n'y a pas de souci.
Ah, mais j'allais te comprendre. Non, tu fais la session avant toi.
Voilà, c'est ça.
Donc,
là, je serai présente avec des livres.
On
ne
se mélange pas comme ça. Il faut faire de la radio pour pouvoir mélanger les artistes. Mais c'est vrai, là, on est autour d'une table, on a des artistes de différents univers. Et donc, en tout cas, nous, notre émission, elle permet, ni chaud ni froid, d'inviter des artistes en même temps. Non, je ne jette pas parce que la pierre à Mex... Venez au mois d'août, regardez ce qui se passe à Mex devant Virton, parce qu'il y a beaucoup d'événements artistiques à ce moment-là. Et bon, si on sait qu'elle est un truc pour Bérangère, ou... Non, elle est en congé, je pense.
Mais pour ça, il n'y a pas de souci. Je ne peux pas annuler mes congés. Hein. Moi, j'arrive tout de suite. Dès qu'on me dit, tu viens chanter, j'arrive.
Ça va, alors on va essayer de voir ce qui est programmable encore. Et puis, Carole, je crois que toi, tu es en création. Je comprends le mot, je suis en création.
Oui, il y a des périodes pour chaque chose.
Il faut se mettre dans sa bulle, et parce que sinon, ce n'est pas possible.
Oui, tout à fait. C'est comme justement, les personnes qui sont dans la musique, ils ont des moments où ils écrivent leur album, où ils l'enregistrent, et puis des moments où ils font une tournée.
Et
les artistes visuels, c'est un peu la même chose.
Voilà. Et avant de monter sur scène, ils ont besoin de off, de tout.
Ouais, ouais.
Bah, nous, ce n'est pas avant de monter en expo,
ouais.
Mais on a besoin d'être en off aussi pour simplement pouvoir se recentrer et créer.
Ouais.
Ou sinon, je vous rappelle que vous trouvez le livre de Valentine sur Amazon. Par contre, on vous mettra aussi bien sur la page Facebook de Radio Sud, les différents liens, etc. Moi, sur ma page artistique, évidemment, je publie quand même assez bien. Et donc, voilà, pour nos éditeurs qui voudraient réécouter, de toute façon, ce podcast... Lui sera disponible demain soir, je vous en informerai via les réseaux sociaux. Et Sophie, qui n'est pas là aujourd'hui, qu'on excuse, qui co-anime aussi avec nous, s'occupe de la page Facebook, donc elle mettra ça à jour, etc. etc. Donc, vous retrouverez évidemment les liens vers nos invités, s'ils ne nous ont pas bloqué le tag. Alors, je dis juste ça parce que j'ai des invités des semaines précédentes. Si vous nous écoutez, n'enlevez pas qu'on puisse vous taguer parce que, du coup, quand on fait votre pub, ben, on la fait un peu dans le vide. Voilà, si, mais on l'a fait pour nos followers à nous, mais pas les vôtres. Donc, c'est un peu dommage. Donc, voilà.
Nous allons passer à la rubrique points forts, points faibles. Chacune de vous, vous allez nous dire vos points forts et vos points faibles. Bérangère,
Oui, alors, point fort, je suis persévérante. Alors, point faible, je pense que je suis parfois un petit peu trop gentille. Donc, ça peut être un gros défaut.
C'est quoi être trop gentille? Parce que, non, mais je sais très bien, moi, ça m'embête un peu ce mot. Non, mais franchement, oui. Moi, quand je dis quelqu'un, il est gentil, oui. Ça veut dire qu'il est dans les bonnes valeurs, ça veut dire qu'il ne va pas faire du mal à l'autre.
C'est ça.
Ça veut dire qu'il ne va pas chercher la petite bête. Oui. Ça veut dire qu'il va être bienveillant.
C'est ça.
Il va être au mieux, etc. Mais maintenant, quand on utilise le mot gentil, et trop gentil, je trouve que ça n'existe pas. Ça veut dire trop bon, trop con, moi, je crois. Non, mais ça veut dire qu'on va en profiter de la naïveté soi-disant de l'autre, alors que être gentil, moi, je suis pas naïve, pourtant, je suis quelqu'un de gentil.
Oui, ben c'est ça. Je veux dire, c'est tout à fait ce que tu viens de dire. C'est qu'à un moment donné, du fait que je suis assez bienveillante, conciliante, par le fait que je suis gentille, parce que mes parents m'ont très bien élevée.
Tout à fait.
J'ai des valeurs et ben ça, voilà, il y a certaines personnes qui s'en servent contre moi et ça peut des fois me jouer des tours, voilà.
Parce qu'on n'est jamais trop gentil, on est juste gentil. Mais c'est pas, ça ne doit pas être péjoratif.
Non, pas du tout.
Ça
ne
doit pas servir d'arme pour les autres. Mmh. Et voilà, je signale en passant que Bérangère me ramène. Donc, je dois être gentille avec elle. mais voilà, non, c'était l'occasion de remettre un petit peu sur le mot de vocabulaire de la langue française. Le mot gentil qui est devenu à la langue péjoratif. Et quand on dit oui, il est gentil, ben on a l'impression qu'il est trop bon, trop con. Mais alors que ce n'est pas du tout ça.
Non. Ici, je veux dire que voilà, c'est juste...
Serviable,
je suis trop serviable, donc je suis trop peut-être dans la bienveillance et ça peut effectivement être peut-être mon petit point faible. Voilà.
Carole, même question, point fort, point faible?
Oui, moi je pense que mon point fort c'est d'être déterminée, parce qu'en général quand j'ai une idée en tête je ne l'ai pas ailleurs et je vais souvent au bout de mes projets et de mes idées. Par contre, du coup, le point faible ce serait peut-être justement l'excès de détermination et parfois je peux me montrer un peu têtue, voire obstinée. Je pense que ce serait ça.
Maintenant, si c'est dans ton art, c'est un excellent... Enfin, c'est une grande qualité, tu vois, parce qu'en fait, ça veut... Maintenant, parce que tu... Je veux dire, alors, si tu fonctionnes avec des demandes et des contrats, oui. Maintenant, ça te donne la liberté de... Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais parfois, effectivement, quand on travaille à la demande ou au contrat, on ne peut pas pousser son idée jusqu'à ce que le client ne soit pas content. Donc, c'est vrai que parfois, c'est bien quand on va... Au bout de ses projets personnels, c'est très bien. Quand on travaille à la commande, parfois, ça peut être un petit peu... C'est difficile d'être un artiste de commande parce qu'effectivement, on a une liberté qui est largement entravée et réduite. Donc, parfois, c'est un petit peu frustrant.
Moi, je viens de lever les mains. J'avoue que je détesterais parce que je suis artiste en figuration libre et j'appuie bien sur libre parce que c'est tout ça que je... Moi, tu fais tout ce que je... Bah, heureusement, il y a des artistes qui le font. Tu fais
après, tout ce que je n'aimerais pas faire. Il y a un côté aussi, quand on répond à une commande, il y a aussi un côté, on aide une personne à aboutir un projet. Donc, il y a un côté aussi d'investissement dans une relation qui souvent est très courte et brève et le temps du contrat. Mais voilà, par exemple, quand je fais un logo, parce que je fais aussi du graphisme, je pense qu'on en parlera. Quand je fais un logo pour quelqu'un, je participe à la création d'un projet qui tient à cœur à la personne, etc. Et c'est tout un processus qui m'implique. Et ça me plaît de pouvoir participer et mettre ma petite pierre à l'édifice du projet de quelqu'un. Ça, c'est quand même très, très chouette. Donc voilà, il y a des bons et des mauvais côtés. Comme dans toute chose, de toute façon.
Moi, j'ai déjà fait du logo, j'ai déjà fait du street art, etc. Mais est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu me donnes la liberté
oui,
de...
Oui.
Voilà, mais c'est pas du tout la même démarche, tout à fait. Moi, j'avoue que si je compare nos domaines par rapport au fonctionnement, parce qu'on n'est pas dans le même type d'art graphique, et je veux dire, le fonctionnement est différent. Tu travailles à la demande, etc. Je suppose que tu te fais quand même des kiffs à faire des choses que pour toi quand t'as envie.
Oui, je fais vraiment les deux.
Oui, les deux. Mais par contre, moi, je pourrais pas parce que je suis quelqu'un, déjà, on me dit tu fais ça, déjà, je vais pas le faire. Sauf si c'est le sens civique, hein. Je préviens nos auditeurs. Mais, ou sinon, tu vois, d'avoir ouais. pas une ligne, de me laisser aller, d'être dans la liberté totale. Ouais, ouais. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas non plus dans la liberté. Ça veut dire que tu vas adhérer à un projet, tu vas aider, accompagner à une réalisation. Ouais. C'est super intéressant. Mais on revient à ce qu'on disait tantôt, il faut se connaître, quoi. Il suffit, c'est un bon mot. Mais,
moi, j'ai la chance d'avoir pas mal de clients qui sont venus me trouver pour mon style. Donc forcément, à partir du moment où ils viennent parce qu'ils ont vu ce que je faisais, eh ben, j'ai une liberté qui est plus large forcément, puisqu'ils veulent ce que je sais faire. Donc,
mais il faut que je aille regarder, parce que tu me parles que tu as ton style, ça veut dire que tu as ta patte.
Oui, quand même, je pense. Voilà, bah, après, j'essaye beaucoup de choses, j'expérimente énormément. Donc effectivement, parfois, ça part un peu dans tous les sens. Moi, je trouve que ma page Instagram, c'est le bazar complet. Apparemment pas tant que ça d'après mes proches, mais moi, je trouve que c'est un peu le bazar, parce que j'expérimente aussi beaucoup de choses. Et que voilà. Mais c'est vrai que... j'ai quand même un style assez défini au niveau du dessin, surtout, ouais.
Parce que je trouve que, alors, en tant qu'artiste dans l'art visuel, ça, c'est une chance. On parlait tantôt de dons, on parlait de technique, mais ça, c'était en off. Hein. Mm-hmm. On n'était pas à la radio à ce moment-là. Et en fait, oui, il y en a qui ont un don, il y en a qui vont plus travailler la technique, il y en a qui ont les deux, qui vont développer, etc. Mais avoir son identité artistique, qu'on te reconnaît, quel que soit ce que tu fais, pour moi... il n'y en a pas beaucoup.
Non.
Mais c'est la plus grande chance qu'un
artiste. Et en même temps, ça enferme. Une fois qu'on est un peu catalogué, ça peut enfermer aussi. Et moi, par exemple, je suis le genre de personne qui a du mal à faire tout le temps la même chose. Donc, il y a une époque, voilà, on me demandait tout le temps des portraits avec un petit fond à l'aquarelle. Ben, c'est très bien, parce que c'est ce que j'aime faire. Mais au final, refaire tout le temps la même chose, parce que les gens ont vu ça, reveulent ça, parfois, ça, ouais, on tourne un peu en rond. Et ça,
donc,
ça...
tu travailles aussi l'aquarelle?
Oui, légèrement, pour mes portraits, mais vraiment, vraiment une petite touche de couleur, mais, ouais, ouais.
Mais,
sur les dessins, mais pas à la peinture, c'est vraiment deux choses que je distingue, mais oui, sur les dessins, je travaille un peu l'aquarelle.
Mais par rapport à ce que tu disais, justement, mm-hmm. d'expérimenter, mais je pense que c'est là où tu t'ennuies moins, c'est le fait d'expérimenter ailleurs.
Oui, c'est plein de choses, oui, plein de techniques, plein de façons de faire. Et voilà, c'est vrai qu'il y a des artistes qui font une chose et qui le font toute leur vie, ça devient leur signature, mais ça
peut enfermer, oui, c'est ça. Qui sont connus,
question de tempérament,
et qui
en
vivent, etc.
Oui.
Maintenant, moi, je voudrais pas, j'aurais l'impression de m'ennuyer.
Oui, peut-être, oui.
Que là, avec ce que tu dis d'expérimenter, maintenant, je suppose que même si tu utilises un autre médium, tu vois bien
Ouais.
On va retrouver ta patte.
Oui, on revient toujours aux mêmes choses. On a vraiment ses obsessions et on a ces trucs à soi, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'expérimenter permet de ne pas non plus se laisser enfermer. Et en même temps, le public a besoin de mettre des étiquettes, a besoin d'enfermer l'artiste dans un style qui lui est propre. Ça permet de se différencier des autres, etc. C'est important aussi. Mais bon, voilà. Quand on a le rôle de l'artiste, c'est vrai que c'est pas toujours ce dont on a envie. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé avec mes illustrations. Et parfois, c'est vrai que je me dis, ben, je suis contente d'avoir pu essayer autre chose, de ne pas être restée là-dedans et d'avoir continué à faire ça tout le temps et uniquement ça, en fait. C'est ça il faut varier. Je pense qu'il faut diversifier.
Toi, tu as envie?
Oui.
C'est super.
Oui, oui, bah oui.
C'est ça, en fait.
Ouais.
Valentine, vos points forts, points faibles?
Je pense que mes points forts vont être le fait, déjà la bienveillance, le fait de pouvoir cerner finalement ce qui se passe derrière chaque mot et de réussir à parler de tout sans détour et d'y aller cache quoi. On y va, on avance, on est là pour travailler sur soi et voilà, on n'est pas là pour prendre des pincettes, même si on le fait avec beaucoup de bienveillance.
Non, moi j'avoue que Valentine est à côté de moi. Alors on a parlé... elle fait aussi l'hypnose, donc ça viendra après. J'ai quand même osé m'asseoir à côté d'elle. Elle n'a pas encore su me faire taire. Ni m'hypnotiser.
Tu ne me l'as pas encore demandé.
Mais je te le demande pas. Et puis, mais par contre, j'avoue que je n'ai pas écouté tes défauts. Tu peux me les redire?
Alors, les défauts, je n'ai même pas encore dit. Que les défauts, ce serait le fait d'avoir 1000 idées à la minute. Ça, c'est extrêmement compliqué parce que je m'émerveille de beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, j'aurais tendance à vouloir faire plein de projets, mais il n'y a que 24 heures dans une journée. Il y a des enfants, il y a un travail, et donc voilà, c'est le défaut, c'est un petit peu...
Donc tu ne sais pas mettre ton cerveau en off?
Alors, je peux y arriver, mais c'est un peu compliqué.
Ouais. Mais l'hypnose, par contre.
Ouais, ouais.
Moi, j'ai fait des séances d'hypnose par le passé pour le sommeil, parce que 24 heures, comme tu dis, on n'a que 24 heures. Enfin, moi, je fais partie de ceux-là, en fait. Hein. Si on me donnait une petite pilule où j'ai dormi, je me sens bien, mais mon corps a besoin de dormir quand même un minimum, simplement parce qu'on a plein de 1000...
Après, je dors bien.
Non, moi, j'ai pas dit, je dormais pas bien. Hein. Je dors pas beaucoup, mais je dors très, très bien. J'ai un sommeil très réparateur. Mais par contre, en effet, alors, quand on a 1000 idées, je pense que c'est à la fois une chance, mais c'est aussi Ouais. Un défaut.
Ouais. C'est le petit...
On va faire une petite pause de 15 minutes. Cher auditeur, ni chaud ni froid revient dans 15 minutes. On sera là, Christelle.
Bah, pendant ce temps-là, on va écouter un peu de la musique des années 2000 jusqu'à 2025, je pense. Hein. Donc, on va, si nos auditeurs sont fans un petit peu, sinon ils peuvent faire aussi une pause. Nous, on va passer à la toilette, boire un petit coup. Faites ça aussi si vous avez envie. Ou sinon, écoutez la musique, mais mettez le son plus fort quand même pour la musique. À bientôt, à tout à l'heure.
De toutes les musiques que vous aimez.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. No. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only us when we die. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Until our eyes meet, you won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. Through the phone, wait for me to come home.
Maya, Maya, hey. Maya, Maya.
This is special what's happening to all my soldiers Maya, over there in Iraq.
Maya,
everybody
Maya,
right here.
Maya,
what you need to
Maya,
do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got. Start being thankful for what you do got. Let's get into them, baby girl. Hey.
Hey. That's right. Yeah. Okay. Yeah. Hey. Hey.
Tell me. days away now had I never saved the day. Consider them my protege. How much I think they should pay. Instead of being gracious, they violate in a major way. I never been a hater. Still, I love them in a crazy way. Some say they sold the yay. You know they couldn't get work on Labor Day. It ain't that black and white. It has an area that's shaded gray. I'm west side anyway. Even if I left today and stayed away. Some move away to make a way. Not move away cause they afraid. I brought back to the hood. And all you ever did was take away. I pray for patience, but they make me wanna melt their face away. Like I once made them spray, now I can make them put the canes away. Been thugging all my life. Can't say I don't deserve to take a break. You'd rather see me catch a case and watch my future fade away.
La radio du Bocanton sur le 105 FM.
Rebonsoir, chers auditeurs. Nous sommes là. J'espère que vous êtes toujours à l'écoute après ce moment d'attente et de détente. Christelle ?
Non, on est tous là au complet. On n'a perdu personne. C'est ça l'essentiel. Tout le monde est là.
Nous allons commencer par la rubrique hommage. Dites-nous chacune trois personnes importantes qui vous ont soutenu dans mon projet. Bérangère, nous allons commencer par vous.
Alors, ça va peut-être faire bateau, mais mes parents, et surtout mon papa, qui est mon plus grand fan. Voilà, et puis alors mon équipe, quoi, parce que voilà, sans eux, Bodyguard n'existerait pas. Une voix sans musicien, ça le fait pas trop. Donc oui, c'est voilà, donc toute mon équipe, donc je remercie Joël, mon claviériste, Xavier, guitariste, Daniel qui est mon bassiste et qui m'a aidé à monter le projet il y a 13 ans, et Eddie qui est notre batteur. Voilà.
Moi, je pense que quand on est artiste, c'est important d'être entouré d'autres artistes qui comprennent les enjeux et les luttes permanentes que c'est la créativité et la création. Donc, je citerai mes deux meilleurs amis qui s'appellent Antoine et Sophie, qui m'aident beaucoup, avec qui je discute beaucoup, avec qui on échange énormément, qui me donnent des retours et me donnent une opinion sur mon travail. Et bien entendu, mon compagnon qui est aussi dans l'art et qui s'appelle Amine. Et donc, c'est très chouette aussi de partager ça au quotidien avec quelqu'un.
Alors, bien évidemment, la famille, hein, c'est hyper important de se sentir soutenu, surtout quand on fait des choix, même par rapport à l'hypnose. Moi, avant, j'étais dans une vie bien carrée, avec un CDI, etc. Donc, quand on décide de tout plaquer et puis de dire qu'on va faire de l'hypnose, ben voilà, il faut qu'on sente que derrière, il y a du soutien.
Bien évidemment.
De l'engouement. Ben oui, de l'engouement. Et puis, voilà. Et puis, mes enfants, bien évidemment, ça, c'est hyper important. C'est un moteur, en tout cas, de dépassement. Et puis, ben, bien évidemment, mon compagnon, en fait, il faut savoir que mon compagnon, il a quitté le sud de la France pour venir s'installer près de moi ici en Belgique. Mais écoute, pour devenir, et finalement, on travaille ensemble. Lui, il est magnétiseur et rebooteux, et donc on est en train de créer nos projets ensemble. Et donc, du coup, bah, c'est hyper important de se sentir soutenu
et aligné. Du coup,
c'est ça.
Et aligné.
Carole, vous avez réalisé plusieurs expositions dans différents pays, États-Unis, France, Espagne. Lequel vous a le plus marqué ?
Mais je me suis pas déplacée dans toutes les expos. Parfois, il s'agit juste d'envoyer des travaux et je ne vais pas forcément sur place. Mais j'ai beaucoup exposé à Paris et j'en ai de très bons souvenirs, notamment un salon du dessin que j'avais fait avec d'autres dessinateurs qui s'appelle Des Dessins. Auquel j'ai participé il y a quelques années et j'en ai vraiment un très bon souvenir. J'ai rencontré des personnes super, très inspirantes et vraiment qui partageaient ma vision de l'art. Donc c'était très très chouette, une très très belle expérience.
Quel est votre maître à penser dans l'illustration ?
Dans l'illustration, j'en ai plusieurs. J'aime bien une illustratrice qui s'appelle Jenny Morcel, qui est scandinave, donc si j'ai pas bien prononcé son nom, il faut pas m'en vouloir, mais elle fait aussi des dessins en crayon, sur papier, des portraits, mais qui sont très 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 beaux, très très léchés. J'aime bien une autre dessinatrice qui s'appelle Chloé Pienne, qui est une artiste pluridisciplinaire, mais qui a fait quelques dessins au trait qui sont aussi très très un peu plus macabres, même très macabres, mais très très beaux. Et sinon, je dirais peut-être Elizabeth Payton pour ses dessins. Elle fait des portraits, mais très très dynamiques comme ça, très vifs. Il y a vraiment une énergie dans ses portraits qui sont vraiment intéressants. C'est au crayon de couleur, c'est très 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 chouette aussi.
Le dessin qui vous a le plus séduit, que vous avez dessiné ?
Dans ce que j'ai fait, moi, je citerai une série de 4 portraits que j'ai fait il y a très longtemps, au tout début de ma carrière. C'était 4 portraits de politiciens belges et je leur avais fait des accessoires, par exemple un chapeau pointu ou un masque de carnaval pour un petit peu dénoncer le ridicule par moment de la politique belge. Et c'est vraiment un dessin que j'ai fait au tout début de ma carrière qui avait ce côté instinctif des débuts. Donc il y a vraiment ce trait que j'aime toujours aujourd'hui. C'est vraiment un dessin que je trouve n'a pas vieilli en termes de style. C'est vraiment toujours... parfois je me réfère encore à ce dessin-là comme une base. Quand je me sens perdue ou quoi, je me réfère encore à ce dessin-là. Et en plus, ils sont toujours d'actualité en termes de sujet puisque la politique n'est pas beaucoup mieux qu'il y a 10 ans. Donc voilà. Mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une série de portraits que j'aime particulièrement.
Et d'où vient cette créativité ?
On en parlait un peu tout à l'heure. La créativité, c'est un don. L'art, c'est un don. Je pense que tout le monde peut être créatif. Donc la créativité, je crois que tout le monde peut en avoir. Mais par contre, moi, c'est... Je pense que j'ai eu un parcours... J'ai beaucoup dessiné avec ma grand-mère quand j'étais très petite et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties de là, de ce qu'on dessinait à l'époque. Je dessinais déjà des silhouettes humaines, tout était déjà là en quelque sorte. Et comme j'étais petite et que j'étais une enfant, on m'imposait pas de limites. Donc c'était vraiment un moment de ma vie dont je me souviens comme étant très créatif, sans barrière. On se déguisait, on inventait des mondes et c'était vraiment... Je pense que les origines de ma créativité viennent un petit peu de là.
Moi, je vais juste un peu rebondir.
simplement parce que je suis pas d'accord avec toi au niveau
sur le
bah, sur le concept en fait. Moi je pense que la technique elle peut s'acquérir par la pratique, etc., par l'expérience, par le fait de, je pense en effet que dans l'art visuel plus on va pratiquer plus on va avoir des techniques. Moi personnellement je suis encore un bébé dans l'art, je l'ai déjà dit, je suis avide d'apprendre plein de techniques, je veux essayer plein de choses, etc. Mais par contre je pense que la créativité, c'est parce que tu l'as, je pense que tu dis ça, parce que moi je trouve pas que la créativité ça va venir un jour. Je pense que soit tu es quelqu'un, un enfant à la base créatif, t'as ton cerveau qui fonctionne, qui va créer, qui va imaginer. Et par exemple pour moi, bah on va parler, je vais parler le parallèle, c'est un peu bizarre mais c'est pour qu'on puisse comprendre. Voilà, maintenant avec tous les réseaux sociaux, avec tout ce qui est à la télé, tout ce qui est visuel, les enfants, ils vont être occupés tout le temps. Qu'avant, j'ai déjà vu une fois une pub pour une machine à laver, et on voit un enfant qui voit dans la mousse des formes et qui s'imagine des choses. Pour moi, la créativité, elle vient à ce moment-là, dans l'enfance, où plus on va te laisser, je veux dire, moins ton cerveau occupé, plus tu vas aller explorer plein de choses différentes, et donc du coup tu vas mettre en marche ta créativité. Et je pense que ça, si ça n'a pas été travaillé de manière naturelle, ça peut pas venir à 40 ans. Tandis que la technique, tu peux commencer à apprendre à n'importe quel âge, tu vois, des techniques, et je sais pas, si t'as jamais tenu un crayon, ce qui est un peu bizarre, mais on peut apprendre à le tenir, on peut apprendre à l'utiliser, les matériaux, il y a des associations qu'on peut faire, selon le médium, ça va matcher ou pas, tu vois, il y a plein de techniques. Que la créativité, je trouve que, je sais pas si ça s'acquiert.
Mais je pense qu'on doit tous avoir une part de créativité à la base. Maintenant, la développer ou pas, ça, effectivement, c'est un choix et c'est un parcours de vie. Mais pour moi, la créativité ne s'exprime pas non plus que de façon artistique. C'est marrant, on en parle souvent avec mon compagnon, mais par exemple, être créatif en cuisine, c'est de la créativité. Être créatif en déco, c'est de la créativité. Donc voilà, ça dépend un petit peu où notre créativité se situe. Il y a peut-être des gens qui vont faire preuve de créativité en organisant leur tableau Excel, quoi. Mais c'est vrai que ça doit être encouragé. En tout cas, si c'est une créativité dirigée vers l'art, pour moi, ça doit être encouragé assez jeune et le plus tôt le mieux. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui se déterminent, je pense, très jeunes, des intérêts comme ça qu'on a et des choses qui nous suivent toute une vie.
Et je te rejoins très bien en disant que moi, je pense que quelqu'un qui est créatif, il va être créatif dans tout. En fait, quel que soit le domaine. Et tu as parlé de, pour moi, la pâtisserie, par exemple, est immensément créatif. Et je pense que la créativité n'a aucune limite.
Non,
c'est vrai. Et dans un tableau Excel, je trouve que c'était le bon exemple aussi de montrer qu'on est aux antipodes de tout. Mais voilà. Moi, je donne cours aussi d'informatique et j'ai des élèves, des fois, qui veulent être créatifs.
Ouais.
Mais par contre, on ne peut pas être créatif tout le temps. Il y a des canevas.
Oui.
La mise en page, par exemple, il y a des règles à respecter. Être créatif, ce n'est pas être belle.
Non, c'est vrai qu'il y a des règles à respecter à peu près dans tous les domaines. Hein, même quand on fait de la typographie, moi, j'aime beaucoup faire de la typographie. Il y a des règles hyper strictes en typographie. On ne fait pas n'importe quoi. Mais c'est Picasso qui disait que les règles sont faites pour être transgressées. Enfin, voilà, ça fait partie aussi du processus créatif. Donc,
un grand maître. Pas sur qui il est,
non.
Qui il était comme personnage, comme personne, je vais dire. Mais par contre, voilà, c'est indéniable que Picasso, c'est un des plus.
Et il a changé l'histoire de l'art, ça, c'est
clair.
Voilà.
Vous avez illustré deux livres pour enfants précédemment, les petits des livres, et où on peut les trouver?
Alors, ils ne sont pas encore publiés, ils paraîtront au mois de septembre, donc c'est pour bientôt. Donc, comme j'expliquais un petit peu tout à l'heure, on a fait ça avec ma meilleure amie qui est autrice et qui avait envie de s'essayer aux livres pour enfants, et donc j'ai suivi le projet. C'est une collection de livres qui a pour but d'expliquer justement l'histoire de l'art aux enfants. Donc chaque tome sera sur un artiste, ça ne sera pas sur la vie d'un artiste, mais ça part d'une couleur, par exemple, qu'un artiste pouvait utiliser, ou d'un motif. Le premier livre s'appelle Pablo, ça fait référence justement à Picasso, et le deuxième s'appelle Les Tournesols, qui fait référence à Van Gogh. Donc ces deux-là sortiront en septembre aux éditions du Temps de Midi, qui est la maison d'édition de mon ami. Et il y aura normalement 7 tomes en tout. On espère en sortir un ou deux autres d'ici Noël.
C'est bien.
Ouais, super projet. C'est très chouette. Ça me sort un peu de ma zone de confort, donc c'est très agréable.
Pédagogique à la fois.
Oui, on a toujours un objectif derrière. Et puis alors, les histoires sont un petit peu plus... un petit peu travaillé aussi pour aborder des sujets parfois difficiles à aborder avec les enfants. Il y en a un qui parle du deuil, mais de façon positive, par exemple. Donc, ouais, c'est un assez chouette projet. Mon ami a beaucoup de bonnes idées, donc c'est très, très cool de pouvoir illustrer ça. Et puis, moi, maintenant que j'ai un enfant aussi, je me demande un petit peu ce que je vais bien pouvoir lui lire comme histoire avant d'aller dormir, parce qu'il y a quand même beaucoup de contes dans lesquels, enfin, avec lesquels moi j'ai grandi, que je ne lui lirai pas aujourd'hui parce que ça a pris de l'âge, on va dire ça comme ça, et c'est plus du tout adapté à notre époque. Et donc, voilà, le fait d'écrire aussi nos propres ouvrages, ça...
Oui, tu auras matière.
Voilà, j'aurai matière à lui lire le soir. Voilà, tout à fait.
Vous avez des peintures aussi en lien avec des contes de la mythologie?
Oui, ça, c'est un autre projet sur lequel je travaille pour l'instant. Donc, c'est des peintures sur toile, du coup, comme on parlait tout à l'heure. Pour l'instant, à l'acrylique, mais potentiellement bientôt avec un autre médium. Où là, je mixe un petit peu, en fait, mes centres d'intérêt, c'est-à-dire la mode, sur laquelle j'ai probablement un regard plus critique qu'il y a 10 ans quand j'ai commencé ma carrière, 10 ou 12 ans, je ne sais pas exactement. Donc, je mixe un peu la mode avec les contes et cette espèce d'imaginaire collectif et d'inconscient collectif qui sort vraiment quand on s'intéresse un peu aux contes. Enfin, il y a eu énormément d'analyses de contes qui ont été faites et voilà, je ne vais pas développer, mais je mêle un peu les deux. Dans les contes, il y a aussi une part obscure de l'humanité et la mode peut aussi être critiquée. On sait que c'est un problème pour l'instant au niveau écologique et la survie de l'espèce, tout simplement. Donc je mêle un peu tout ça dans des œuvres qui sont sur toile et qui sont en peinture, qui se distinguent un petit peu de ce que je fais en dessin. Ouais.
Je vous ai demandé de choisir chacune un tableau qui représente votre vie. Valentine ?
Moi, je dirais le ciel étoilé de Van Gogh.
Moi, c'est ça représente pas spécialement ma vie, mais c'est la seule peinture devant laquelle j'ai pleuré dans un musée. Donc, c'était devant un Rothko. Alors, je voudrais pas dire lequel parce qu'ils ont tous des titres un peu alambiqués, mais c'était devant un Marc Rothko que je trouve très émouvant et touchant. Ça va au plus profond de là, mais c'est vraiment un art qui me touche énormément.
Moi, je préfère Monet. J'aime bien les jardins d'été, le chill, la tranquillité, les petits bonheurs simples.
Christelle ?
Non, je pensais qu'elle parlait de déjeuner sur l'herbe. étrangère, je pense, oui. Mais on a, voilà. Quoi, tu veux que j'intervienne ou que je dise moi qui m'a marqué ? Ah oui, non, un peu de classique. On a du Van Gogh avec le ciel étoilé, je vois tout de suite de quoi on parle.
Rothko.
Non, pas du tout. Mais je me dis, c'est une artiste visuelle, donc elle a une panoplie, à mon avis, plus large encore que moi, et du coup, ça. Mais peut-être si je vois, je me dirais oui, j'ai déjà vu.
Oui, d'office, c'est très connu, mais peut-être pas le nom. Oui. Ouais.
Mais voilà, et puis, j'avoue que moi, toujours entre Monet et Manet, des fois, j'hésite. mais là, on était sur du.
Monet.
Voilà. Mais sinon, non, moi, je pour rejoindre ce que Carole a dit, moi, c'était plutôt à Figueras devant un Dali, et un Dali pas connu du tout. Et j'aimerais retourner à Figueras juste pour voir ce tableau dans lequel je suis. Il y a 20 ans, resté calé. Donc, voilà.
Il y a des œuvres comme ça qui nous touchent. Ouais, hein.
Mais je ne la retrouve pas, en fait. Ah. Tu vois, elle n'est pas diffusée. Donc, il faut que je retourne vraiment à Figueras. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. C'était vraiment pas ce qu'on connaît de Dali, en fait.
Ah oui, oui.
Avec vraiment...
Qui aussi a fait beaucoup de choses différentes.
Oui, différentes, mais comme Picasso, ils ont touché un peu à tout.
Oui, c'est vrai.
Pour amener vers leur art à eux.
Ouais.
Voilà.
Valentine, dans votre livre, vous dites que les kilos peuvent se transmettre de génération à l'autre suite à des blessures passées.
Alors oui, on peut porter le poids d'une loyauté. Donc c'est pouvoir se dire que dans les générations précédentes, la mamie ou la bobonne était en surpoids et que derrière, pour rester fidèle à l'identité de sa famille, on va vouloir garder comme empreinte le poids.
Mais pas la masse. On peut garder le poids, mais pas la masse. Oh, c'était trop facile de faire le parallèle parce que nous, on porte une masse et non pas un poids de quelque chose. Et non, je pense qu'on n'est pas obligé de rester dans la fidélité traditionnelle de la famille, mais inconsciemment, à mon avis.
Ouais. Parlez-nous du symptôme de remplacement.
Alors, le symptôme de remplacement, ça va être lorsque... Donc ici, on parle vraiment du livre, donc de la perte de poids. Donc ça va être le fait de se dire qu'à un moment donné, on va perdre du poids. Et donc, on va remplacer la protection que ce poids avait
par autre chose. Mais généralement, c'est des choses qui vont de nouveau pas être sympas. Ça va être se ronger les ongles ou ça va être avoir tendance à se fâcher plus rapidement, à être en colère de manière plus rapide. Voilà, on remplace un symptôme parce que voilà, le poids n'est qu'un symptôme. J'ai fait le choix de mettre un iceberg sur la couverture du livre tout simplement parce que pour moi, le poids, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et puis, il y a tout ce qui se cache en dessous qui est intéressant à les découvrir. Et,
on voit les racines
c'est
sur
ça.
Le livre, sur la couverture. Maintenant, oui, je pensais plus loin moi-même à d'autres addictions. Certains, ils perdent du poids, ils n'ont plus cette couverture, cette protection, et ils vont, alors je ne parle pas des addictions drogues dures, ça peut, hein, mais je parle, ça peut être autre chose, des addictions, enfin, pour moi le chocolat peut être une addiction, non, peut-être pas pour quelqu'un qui veut justement perdre du poids, mais
bien évidemment, en fait, le symptôme de remplacement, il va soit avoir une utilité pour revenir dans quelque chose de sécuritaire. En fait, ton inconscient, il veut jamais le changement, il n'aime pas ça. C'est une partie qui est très malléable, mais il n'aime pas le changement. Et donc, lui, ce qu'il veut, c'est que tu sois en sécurité. Il s'en fiche complètement que tu ailles bien ou que tu ailles pas bien. Ce qu'il veut, c'est que tu sois en sécurité. Et donc, si toi, tu décides que tu as quelques kilos à perdre, etc., lui, il va percevoir ça d'office comme un danger. Si tu arrives à atteindre ton objectif, bah, le souci, c'est que lui, il va chercher à te ramener en sécurité. Donc, soit il va te ramener à ton poids de départ, à tes anciens mécanismes.
D'où l'effet de yo-yo.
Voilà. Et souvent, c'est ça, c'est parce qu'on ne traite pas de nouveau, encore une fois, le symptôme de la bonne manière, le fond, voilà. Et du coup, bah, vu qu'il cherche tout le temps à te ramener en sécurité, bah, du coup, il va trouver d'autres moyens de te permettre de te sentir en sécurité de nouveau.
Carole, quelle chanson représente votre passé ?
Ah, j'ai choisi une chanson de Emily Nicolas qui s'appelle Charge, qui est une chanson que j'ai énormément écoutée et qui il y a une, justement une charge de colère dans cette chanson qui est à la fois très féminine au niveau de la voix, etc. Et en même temps qui contient beaucoup de colère et je peux me retrouver dans cette combinaison.
Thank you.
Faites-vous une destination ou un endroit qui vous mettrait à votre aise spirituellement?
Moi, je pourrais dire Orval, mais je ne suis pas sûre que j'arriverai à me taire pendant 2 jours.
Moi, j'aime bien la douceur et la tranquillité. Donc, je pense qu'un endroit sympa, moi, ce serait un manoir en Toscane.
Moi, je ne sais pas du tout. J'hésite entre les deux opposés. J'ai envie de dire New York parce que ça comblerait tous mes besoins en termes d'accès à la culture et à tout ce qui est un peu intellectuel ou culturel, cinéma, etc. Expo, ce genre de choses. Ou alors un endroit vraiment perdu où il n'y a personne. Et pareil, j'aurais une maison au milieu de rien, avec une vue magnifique et sans un humain.
Une maison dans la prairie.
Voilà, oui. Ça serait parfait.
Nous allons passer à la rubrique Art Happy. Christelle.
Alors, Arapi, oui. Alors, Arapi, ça c'est le nom que Angela a donné à ma petite chronique là maintenant. Mais c'est simplement, en fait, une petite rubrique, simplement, tiens, quel est votre parcours dans votre art à vous? Alors, quel a été votre parcours en vous de manière... Alors, je connais un petit peu parce qu'on a discuté ensemble et vous, à la base, pas toutes, mais vous avez pratiqué une autre profession que votre art, et puis l'art peut-être, alors oui, on a la chance d'avoir Carole qui en vit de son art, et ça c'est quand même exceptionnel, mais la plupart des artistes, quel que soit le domaine, on ne vit pas de notre art. Maintenant, voilà, j'ai 3 personnes autour de moi, et j'aurais voulu voir qui veut parler de son parcours parcours scolaire, mais parcours de vie, de manière qui vous a amené vers votre art à un moment donné, par une déviation ou pas. Alors c'est bien parce qu'il y a tout le monde qui me regarde et qui dit mais qu'est-ce qu'elle nous pose comme question. Alors je vais commencer par Carole parce que c'est le plus couru. Alors toi tu vis de ton art,
oui.
Et j'ai eu l'impression durant l'émission, sans avoir posé d'autres questions, que tu as quand même au départ un parcours artistique.
Oui, j'ai essayé de ne pas étudier l'art, j'ai raté, j'ai fait 1 an d'université, je me suis dit c'est pas ça. Donc j'ai switché, j'ai fait une école artistique après. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai d'abord pensé au dessin, à l'illustration, et puis je me suis dirigée vers le graphisme, donc j'ai fait 3 ans de graphisme, et à la fin de mes études, j'avais des contrats en illus, donc j'ai directement enchaîné avec un travail tout fait, je vais dire. À l'époque, j'avais fait un stage dans une boîte de communication et de graphisme à Liège, où on m'avait proposé un poste, et je l'ai refusé, je préférais suivre ma voie et essayer de faire vraiment mes illus et de vivre de ça. Et j'ai réussi, donc ça c'est super, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Depuis, je me suis un petit peu diversifiée, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais j'ai aussi ouvert un projet avec mon compagnon, qui a une imprimerie. Il faut un peu essayer d'ouvrir plusieurs portes, parce que c'est sûr que vivre de l'art, c'est pas facile. Moi, effectivement, oui, je l'ai étudié. J'ai eu la chance de...
Oui, t'as un parcours artistique.
Oui, j'ai un parcours artistique.
Je veux dire, un peu plus
ouais.
classique, sans que ça soit... voilà, tu as décidé... Enfin, je ne sais pas si en secondaire, tu avais déjà une orientation artistique, non,
non.
Bah, après tes secondaires, tu as décidé de suivre ton orientation et de faire... T'as choisi graphique, t'as essayé d'autres choses.
C'est sûr que quand on se lance dans l'art, on se dit pas je vais brasser des millions. Hein. Franchement, c'est un choix assez risqué. Maintenant, voilà, comme je disais, j'ai essayé autre chose et ça, j'aurais pas su faire autre chose. Je crois que c'est aussi une sorte de un appel quoi,
oui,
comme ça.
Évidence.
C'est vraiment une évidence. Et donc oui, j'ai fini par faire ça après avoir hésité et je ne le regrette évidemment absolument pas. Parce que ça s'est bien passé pour moi, mais il y a des gens pour qui ça se passe pas aussi bien. Après, dans mon année, dans ma promotion, il y avait la plupart de mes amis sont quand même toujours dans le domaine, donc voilà, il y a moyen, je pense qu'il y a moyen de vivre de son art.
Ou de survivre,
ouais. Mais il faut effectivement, voilà, moi c'est, je vais pas dire que c'est toute ma vie, mais c'est vrai que c'est une partie très très importante de ma vie. J'y pense tout le temps et je suis tout le temps en train de chercher quoi faire, comment me renouveler. C'est vraiment quelque chose qui est là à 200% dans mes journées, quoi. Donc, voilà.
Mais Carole, tu étais la première invitée de toutes les émissions qui vont suivre avec cette petite chronique.
Je suis très heureuse.
Parcours, parce qu'on a tous des parcours. Toi, c'est bien que ça a commencé par toi parce que tu as vraiment un parcours. Alors quand je dis classique, ce n'est pas du tout...
Qui n'est pas linéaire, il y a des périodes.
Voilà, c'est linéaire.
De haut et de bas.
Oui, mais c'est linéaire dans tes choix. Oui. Ça veut dire que c'était une évidence. Tu es là où tu as toujours pensé être et tu y es. Voilà,
tout à fait,
c'est
oui.
par rapport à ça. Je vois que, je ne vais pas dire qui, mais certains passent la main à l'autre. voilà, je vais écouter la première qui se sent à l'aise de parler de son
moi,
parcours.
Moi, je veux bien.
Vas-y.
Donc, moi, je n'étais pas du tout prédestinée à ça. J'avais un boulot d'un 8-16 dans l'administratif, donc ce n'était pas du tout... vers quoi j'allais, puis je me suis rendu compte que j'ai repris ces études de nutrition, du coup que j'ai pu rencontrer des gens, faire des choses, avoir des projets, et puis je suis tombée sur l'hypnose vraiment par hasard, et j'ai tellement apprécié l'hypnose que je me suis demandé comment on faisait pour faire pareil, et donc après j'ai reçu un an de formation pour pouvoir faire de l'hypnose, et puis j'ai quitté mon job, et puis...
Puis tu t'es lancée. Et alors, si je comprends bien dans ce que tu viens de dire, la nutrition est venue à toi par choix, parce que
voilà,
c'était
c'est
l'évidence pour toi à ce moment-là, et l'hypnose est venue après.
C'est ça.
Et pas l'inverse.
Non, okay. Non, non.
Donc, en fait, c'est une interrogation que je me posais, et je trouve que c'est bien de le faire maintenant. J'ai ton livre devant moi qui parle de nutrition, et c'est vrai qu'avant, moi, je m'attendais à... quelqu'un qui parle beaucoup d'hypnose, etc. Moi, je suis une fumeuse.
Ouais.
Ce n'est pas bien. Ne fumez pas si vous ne fumez pas. Ne commencez pas si vous n'avez jamais commencé. Et essayez d'arrêter si vous avez le désir d'arrêter. Tu pourrais travailler l'hypnose avec quelqu'un, par exemple, sur le truc par rapport à la cigarette, ou tu es vraiment axé nutrition parce que tu as été formée pour, parce que tu te sens à l'aise, parce que...
Alors non. En fait, j'ai un grand panel devant moi, et c'est ça qui est génial, c'est parce que même si quelqu'un vient pour le pot, on ne traite jamais le pot. Donc ça, c'est génial, parce que ça va être devoir traiter un deuil, ça va devoir être traité des blessures, un manque de confiance en soi. Voilà, il y a plein de choses qu'on traite, donc je ne fais jamais la même chose, et je parle presque jamais de poids. Donc, du coup, on peut venir pour arrêter de fumer aussi, voilà. Alors, des problèmes de sommeil,
autre chose. Alors, je serais ravie de te revoir, etc. Mais je pense que je suis un cas compliqué par rapport au rapport à...
Ah, mais de toute façon, les
parce
gens
qu'il
qui
faut
viennent,
avoir,
il faut avoir envie.
Voir, on est d'accord.
Si,
et je ne suis pas encore à ce stade-là, ouais. J'aimerais. Hein. Mais est-ce que tu fais des déblocages d'envie? Donc, voilà. Ah, non, c'est aussi pour introduire par rapport à ton parcours, mais aussi voir que... en fait, c'est plus un accompagnement, enfin, je pense, des bonnes questions, d'aller là où, je veux dire, et ça, parce que tu as un parcours de vie qui a fait que, tu t'es pas dit, je termine mes secondaires et j'ai envie de faire travailler l'hypnose ou travailler la nutrition, etc. C'est venu parce que toi-même, t'as senti un besoin à ce moment-là pour toi, pour pouvoir après transmettre.
Et puis, aussi, ce qui est important, c'est de ne pas transmettre ce qu'on a vécu chez les personnes qui viennent nous voir. Le but, c'est de... Bon, quand ils viennent me voir, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas... voilà, on peut raconter tout, on peut tout venir déposer, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le but n'est pas de se dire, je peux comprendre ce que vous êtes en train de me dire, mais je ne peux pas le percevoir parce qu'on perçoit chacun en fonction de qui on est.
Alors, je pense avoir laissé un peu assez de temps pour Bérangère.
Oui, je suis là, j'ai bien réfléchi à
alors,
la question.
Alors, est-ce que quand tu étais petite, en sortant du berceau, tu commençais déjà à chanter et à voilà, avoir ce truc de...
Je pense, oui, que j'ai toujours été attirée depuis toute petite vers le milieu artistique. Sauf que, voilà, je suis née à une époque où c'était peut-être juste un hobby plus que ce qu'on connaît maintenant. Et donc, j'ai fait des études classiques, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis, je suis rentrée dans un travail tout à fait commun en tant que juriste. Mais je pense que déjà, il y avait ces petites choses qui ne me lâchaient pas, puisque j'ai commencé à travailler dans un bureau d'avocats qui s'occupait essentiellement de brevets et du milieu artistique, oui. Dans un cabinet d'avocats de la région liégeoise. Et donc, j'ai côtoyé déjà à l'époque des artistes assez connus de la scène belge. Et puis, petit à petit, ben, j'ai approché le milieu artistique pas à pas. Et de connaissance en connaissance, ben, je suis arrivée où j'en suis aujourd'hui. Voilà.
Mais tu as toujours chanté?
Oui, le chant est arrivé plus par accident, je vais dire, dans mon parcours de vie. Puisque je chantais, j'étais une chanteuse de salle de bain, on peut dire ça comme ça.
Alors allez écouter quand même, parce que c'est à mon avis déjà une bonne chanteuse de salle
voilà,
de bain.
Et puis j'ai eu alors voilà, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et puis je suis rentrée au départ comme choriste. J'ai approché tout ce qui était animation de bal. Et puis petit à petit, je suis arrivée j'ai touché au milieu de la radio, j'ai touché au milieu du mannequinat, j'ai touché tout ce qui était hôtesse pour des grands événements comme les 24 heures de Francorchamps et ce genre de choses. Et puis je suis arrivée à devenir choriste d'un tribute à Joe Cocker, et puis un autre tribute en entraînant un tribute à Johnny Hallyday. Et puis le projet Whitney Houston est arrivé au bon moment. Voilà.
Mais Carole nous disait, je vis art, et moi je comprends tout à fait ce qu'elle dit. Est-ce que toi, tu...
Non, pas du tout.
Voilà, mais
non.
Je le ressens. C'est non, pour ça que je te pose la question.
Je ne sais pas en vivre.
Voilà. Non, attends, je ne parle pas d'en vivre au niveau financier, moi. Quand Carole, elle m'a dit, moi, à chaque heure, à chaque minute, je pense qu'elle est dans l'art tout le temps. Est-ce que toi, tu as ça aussi?
Oui, tout à fait. Oui, je pense que quand on est artiste, ça ne s'arrête pas.
Oui, c'est ça.
Quel que soit le parcours de vie, oui.
Merci.
Bérangère, racontez-nous votre première scène solo et votre première scène à Baudigard.
C'était un tout premier concert sur une scène pour un projet qui concernait les cliniques clowns, c'était la première fois qu'on chantait sous une plus grande formation, et on a fait sold out et on a été les premiers agréablement surpris.
Je rappelle aux auditeurs que Wolfis se joue dans un groupe, le oui, Brains.
Tout à fait, oui.
C'est vous qui lui avez donné ce lien de la musique?
J'ose espérer que c'est le cas. Oui, je suppose. Il a été bercé par la musique. Je l'ai toujours pris avec moi à toutes les répétitions depuis qu'il est tout petit. Et il a attrapé le virus du batteur. Voilà.
Carole, on va rappeler, en 2024, vous avez lancé un projet avec mon compagnon, on peut dire son prénom.
Oui, bien sûr, oui.
Amin Jafari, c'est
oui,
ça
oui,
un projet d'imprimerie, parlez-nous de ce projet.
Oui, donc c'est un atelier d'impression qui se trouve dans la gare d'Arlon, donc vraiment dans le bâtiment de la gare. Ouais, c'est super chouette. Et on est spécialisé dans la sérigraphie, donc c'est une technique qui consiste à créer des écrans un peu comme un système de pochoir, et qui permet d'imprimer sur pas mal de supports, notamment du textile et du papier. Donc nous, on fait... notamment du textile et du papier. On fait aussi de l'impression numérique haute qualité, donc tout ce qui est reproduction d'art, impression de photos en grand format. Donc s'il y a des artistes qui nous écoutent et qui ont envie de faire des reproductions, des prints, etc., c'est tout à fait possible. D'ailleurs, on en a régulièrement. Et voilà, donc ça s'appelle l'imprimerie, c'est dans la gare d'Arlon. On fait aussi des initiations, et c'est vraiment très chouette. N'hésitez pas à venir nous faire un petit bonjour.
Et parlez-nous du graphisme.
Oui, donc moi, dans le projet, je m'occupe du graphisme. Donc voilà, j'ai mis mon crayon au service du projet, et mon compagnon crée des visuels qu'il imprime, donc en sérigraphie. Moi, je crée des visuels aussi, qu'on décline soit sur papier, soit sur t-shirt, etc. On va ouvrir notre boutique en ligne normalement au mois de septembre, donc il y aura nos créations qui seront disponibles sur Internet. Et voilà, donc moi, oui, je réponds aussi aux commandes de graphisme, donc tout ce qu'on parlait tout à l'heure de logos, ben voilà, je fais également des logos. Je suis revenue à, on va dire, mes premières amours, même si mes premières amours, c'est le dessin, mais c'est vrai que du coup, ça me ramène un petit peu à mes études de graphisme, et notamment la typographie que j'aime beaucoup, qui se retrouve déjà dans pas mal de mes illustrations, et là, du coup, je peux expérimenter ça via des logos, ce qui est très chouette.
Est-ce que vous transmettez vos cours à des jeunes?
Oui, des jeunes et des moins jeunes. On fait des initiations soit à l'extérieur, soit à l'atelier. Donc on peut sans problème recevoir des groupes. On en a régulièrement, des enterrements de vie de jeunes filles ou vie de garçons, des familles qui viennent pour faire une petite activité en famille, ou alors du team building. Donc il y a moyen de faire pas mal de formules différentes.
À l'antide, vous pratiquez l'hypnose. Est-ce un don ou ça s'apprend?
Alors ça s'apprend. J'ai suivi une formation d'un an. Et puis que j'ai complété avec pas mal d'autres. Mais voilà, je pense que le don, ça va être plutôt l'écoute et l'intuition. Mais l'hypnose en soi, ça prend, c'est beaucoup plus rationnel que ce qu'on pense.
Et rassurant.
Moi,
je viens d'apprendre que l'hypnose, ça s'apprend. Donc du coup, je me dis, bah ça va, je peux être un peu plus en confiance. Ah, ça
si on veut, on peut même retrouver des traces d'hypnose au temps égyptien. Donc on n'a rien inventé, en fait.
Votre livre s'adresse spécialement aux femmes ou les hommes peuvent le lire aussi?
Alors justement, j'ai choisi que les hommes et les femmes peuvent le lire, en tout cas dont le titre déjà « Es-tu prêt ?» avec un petit « entre parenthèses, sans payer le prix » permet aux hommes ou aux femmes de le lire.
Que direz-vous aux personnes qui hésiteraient à franchir vos portes?
Mais qui viennent, de toute façon... On n'est pas là pour garantir un résultat ou se dire que c'est quelque chose d'assez mystique, d'assez magique, mais c'est la version un petit peu McDo de l'hypnose, quoi. Venez comme vous êtes.
Dites-nous vos réseaux à vous trois, pour rappeler aux auditeurs.
En ce qui me concerne, donc mon site internet c'est carolewilmet.com, mon Instagram c'est carolewilmet, et alors il y a les réseaux de l'imprimerie aussi, donc c'est l'imprimerie-arlon.be, et sur Instagram c'est l'imprimerie en minuscule avec un petit tiret vers le bas, un petit underscore après.
Eh ben moi, vous tapez Bodyguards Tribute Whitney Houston, vous nous trouvez sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok où vous pouvez nous suivre.
Alors, vous pouvez écrire Valentine Main, coach en nutrition et hypnologue, et vous pouvez me retrouver, pareil, sur Facebook, Instagram et TikTok.
On mettra, bien sûr, les liens aussi bien sur le Facebook de Radio Sud que le podcast, probablement demain soir, en tout cas, pour réécouter notre émission.
Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci à vous trois et à Christelle et à Nathan.
Merci beaucoup.
Vous avez bien apprécié?
Impeccable.
Ouais, c'était super.
C'était extraordinaire.
Merci aux auditeurs de Radio Sud. Christelle?
Merci et je vous dis à bientôt, et on a une belle surprise pour dans pas longtemps. Voilà, restez sur les réseaux pour nous suivre, mais on va vous proposer en tout cas quelque chose de bien dans pas longtemps.
Bérangère, pour nous quitter, nous allons passer à la chanson de Whitney Houston.
Oui.
Laquelle?
Alors j'ai choisi I Look to You, qui est la chanson Testament de Whitney Houston juste avant son départ.
As I lay me down, heaven hear me now, I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come, and darkened by sun, after all that I've on earth can I turn to? I look to you. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look.
5 FM. 5 FM.